Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de La Voix des Arts consacrée aux femmes artistes au cours du temps. Nous sommes à la fin du 19e siècle, début du 20e, en compagnie des sculptrices qui nous ont fait voyager, et notamment aux États-Unis, où elles se sont révélées très prolifiques en créativité et réalisation concrète. Alors en France, en plus des Françaises nées cette deuxième moitié du 19e siècle, celles qui se sont fait connaître sont globalement présentées comme faisant partie de ces groupes d'artistes composés de beaucoup d'étrangers ayant favorisé, dès le début du 20e siècle, l'émergence et le rayonnement des arts plastiques à Paris. Alors je citerai une Sarah Lifska née en 1882, mais je n'ai pas trouvé de réelles informations, sauf qu'elle faisait partie de ces femmes qui ont gravité dans le Montparnasse artistique parisien du tout début du XXe siècle. Et c'est le cas également de Tcharna Orlov, née en 1888 en Ukraine. Elle est juive et ses volontés artistiques s'orienteront toujours vers ses origines juives. Alors, émigrée avec ses parents, c'est en Palestine qu'elle deviendra couturière, mais se perfectionnera dans la mode à Paris. Attirée par la sculpture, elle étudiera à l'Académie Vassiliev à Montparnasse dans Paris. Marie Vassiliev, d'origine russe, elle-même une artiste plutôt hétéroclite, qui attirera dans son atelier nombre d'artistes et notamment étrangers. Tcharna Orlov se mêlera à tous ces artistes du Montparnasse du début du XXe siècle, ses compatriotes, au nombre desquels nous distinguerons les peintres Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine, le sculpteur Ossip Zadkine, pour ne citer qu'eux. Alors elle se mariera avec un poète, l'écrivain Harry Justman, dont elle aura un fils. Elle prendra par la suite la nationalité française, recevra la Légion d'honneur entre-temps et se construira, grâce à sa réussite, une maison atelier d'artistes dans le 14e arrondissement de Paris qui sera ravagée lors de sa fuite pendant la guerre 39-40. Ensuite, elle passera de plus en plus de temps en Israël après l'indépendance pour créer, exposer, participer à l'édification de ce pays. Et elle réalisera des monuments en honneur de héros et des constructeurs de l'État, et entre autres une sculpture de l'homme d'État d'Israël, David Ben-Gourion. Et le musée des Beaux-Arts de Tel Aviv lui consacrera également une belle exposition. Et c'est d'ailleurs sur la terre d'Israël qu'elle mourra à l'âge de 80 ans. Alors à part les monuments, elle aura surtout sculpté des portraits d'artistes et son travail nous présente des sculptures plutôt de facture qu'on dira modernes de par leurs lignes épurées. Alors une Roumaine maintenant, Irina Godreanu, née en 1896, étudiante des Beaux-Arts de Bucarest, viendra elle aussi en France, à Paris, pour étudier chez le sculpteur Antoine Bourdel, puis dans une école d'art parisienne, l'Académie de la Grande Chaumière. Et elle deviendra l'assistante du sculpteur Brancusi. Aussi, quelques-unes de ses œuvres sont encore conservées en France, mais surtout en Roumanie. Alors une autre personnalité curieuse, atypique, hétéroclite dans ses activités artistiques, car elle était dessinatrice, peintre, graveur, sculptrice, il s'agit de la Hongroise Anna Priner, née en 1902, donc au tout début du XXe siècle. Celle-ci étudia la peinture à l'École des Beaux-Arts de Budapest avant de débarquer en France à l'âge de 25 ans pour présenter au monde, on va dire, un tout autre visage. Et en effet, il est dit qu'elle troqua ses longues nattes et ses jupes pour le béret, la pipe et le pantalon. Alors dans la foulée, elle changea son prénom et se fit appeler Anton Priner, ce qui eut pour résultat de créer l'ambiguïté tout au long de sa vie sur son identité sexuelle. Alors Picasso ne s'est pas embarrassé plus que cela, hein, car il la nomma Madame Monsieur, bon, à moins que ce soit Monsieur Madame, hein, je ne sais pas si c'est si important. Bon, le fait est qu'elle poursuivra sa carrière en présentant au monde un personnage fluet et vif comme un farfadet, affublé d'un béret et d'une pipe, qui sut se faire remarquer dans la sphère artistique, où il évolua un peu comme un touche-à-tout. Alors, c'est dire qu'il aborda en même temps que des disciplines variées, différents mouvements, jusqu'à se faire happer par des sciences plus ou moins ésotériques ou occultes, les civilisations égyptiennes et leurs connaissances cachées semblant le fasciner jusqu'à influencer sa propre production. Alors elle sculptera des genres de totems, d'objets symboliques en bois ou en bronze, illustrera entre autres le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors on va dire que ces sculptures de tendance constructiviste sont conçues de formes géométriques simples, mais deviendront davantage figuratives avec le temps en représentant une réalité extérieure reconnaissable. Alors, entre autres techniques de gravure innovantes, elle utilisera la pérogravure, papyrogravure, qui remplace les plaques de cuivre par du carton moins onéreux. Et ensuite, dans sa vie, arrivée à l'âge de 48 ans, elle s'installera à Vallauris, dans le sud de la France, une ville bien connue où s'épanouissent nombre de céramistes, et elle continuera à travailler, la céramique surtout, et reprendra la peinture en fin de vie. Et sa peinture étant plutôt abstraite, c'est-à-dire avec des formes que l'on ne peut reconnaître sur une représentation extérieure, comme un personnage, une maison, un arbre, etc. Alors pour mémoire, bon, je reprends un peu les définitions données lors des premières émissions de La Voix des Arts, hein, que vous pouvez aussi trouver dans des dictionnaires internet aussi, par exemple. Alors, je me permets de rappeler aussi que ces émissions ont également pour but de vous renvoyer, voir par vous-même, les œuvres de tous ces artistes connus, inconnus, au plus dans les expositions musées ou chez des galeristes, à moins sur internet, dans des livres et des revues, enfin là où cela est possible, à mesure évidemment de votre intérêt. Alors j'ai rencontré une artiste russe née fin 19e siècle, car elle est née en 1864. Alors le fait est qu'elle jouit d'une grande réputation dans son pays, car elle est considérée comme une artiste majeure de l'âge d'argent en Russie. Alors l'âge d'argent russe, correspondant aux deux premières décennies du XXe siècle, où l'on assiste à un véritable essor d'un point de vue artistique, si bien que cette période est aussi considérée comme la Renaissance russe. Alors, cette artiste sculptrice nommée Anna Golubkina est présentée comme une modeste paysanne, si bien qu'il est dit qu'elle aurait grandi sans instruction, ce qui ne l'a pas empêché d'entreprendre des études d'architecture à Moscou en 1889, à l'âge de 25 ans, et dans la foulée de s'approprier les techniques de sculpture auprès de professeurs russes qualifiés. Et il est dit d'ailleurs qu'elle est la première femme ayant réussi à étudier à l'école de peinture, sculpture et architecture de Moscou. Ensuite, elle part à Paris, encore pour étudier, et là, ce sera à l'Académie Calarossi, dite de la Grande Chaumière. Et nous pouvons d'ailleurs vérifier que la plupart des artistes de cette époque, ayant une certaine aura actuellement et des noms connus, sont passés par Paris et souvent la Grande Chaumière. Alors elle fréquentera également l'atelier de Rodin, elle fut même l'une de ses assistantes, et forte de tous ses enseignements, elle développera son propre style. Alors, elle est classée dans les symbolistes et les impressionnistes. Moi, je note l'expressivité de ses créations et sa capacité à révéler l'intériorité de ses personnages. Et le moins que je puisse dire, c'est qu'elle a réalisé une sculpture de caractère. Alors, elle présente des bustes en bronze. Elle a travaillé le marbre, entre autres, pierre, le bois également. Et c'est après un beau parcours de créatrice qu'elle finira sa vie en tant qu'enseignante, ce qui ne l'aura pas empêchée d'être incarcérée pendant un an par le régime de l'époque pour ses idées politiques. Alors nous allons nous arrêter pour écouter un peu de musique. J'en profite pour vous présenter Nadia Boulanger, née en 1887. Sa mère est une princesse russe et son père est un pianiste et un compositeur français. Elle-même est une musicienne accomplie puisqu'elle était pianiste, organiste, compositrice, chef d'orchestre et professeure. Et elle recouvrit de son immense aura une grande partie du XXe siècle. Car en effet, elle est décédée en 1979 à l'âge avancé de 92 ans. Alors, je parle de son aura pour évoquer sa belle réputation auprès des plus grands musiciens, car non seulement elle était considérée comme une brillante musicienne, mais aussi comme un professeur d'exception chez qui plusieurs générations des plus prestigieux musiciens ont étudié. Alors il est dit qu'elle savait être d'une grande rigueur, ce qui est nécessaire dans ce type de discipline, mais elle s'attachait néanmoins à adapter son enseignement à la diversité des élèves qu'elle devait former. Alors il faut dire qu'elle est née dans une famille de musiciens qui s'étalait sur plusieurs générations et peut-être que cela a une incidence sur son parcours. En tout cas, elle a baigné dans ce milieu dès sa naissance, d'autant plus que dans le salon familial se côtoyaient les musiciens réputés, reconnus, connus et produits maintenant dans le monde entier. Et ce sont Camille Saint-Saëns, Charles Gounod, Gabriel Fauré, pour ne citer qu'eux. Alors je vous ai dit plus haut que le père Ernest Boulanger était lui-même un pianiste et compositeur français renommé, ce qui fait certainement qu'elle commencera à étudier très jeune la musique, de même que sa sœur Lily, sa cadette de 6 ans. Et cette dernière fut d'ailleurs considérée comme une compositrice remarquable, mais malheureusement, elle mourut prématurément à l'âge de 25 ans, ce qui affecta si douloureusement Nadia qu'elle aurait décrété ne plus vouloir jamais composer. Et c'est apparemment ce qui s'est passé. Et c'est à cette période qu'elle décidera de transmettre ses connaissances et de former d'autres musiciens. Alors, je vous ai également dit qu'elle était chef d'orchestre, et en effet, elle dirigera entre autres l'Orchestre Philharmonique de Paris. Elle fut en outre la première femme à diriger l'Orchestre Philharmonique de Londres. Bon, j'ai vu qu'elle avait dirigé le Requiem de Fauré, qui est extrêmement difficile à interpréter. Enfin, là, c'est mon avis, mon humble avis de mélomane, c'est-à-dire avant tout d'une amoureuse et d'une auditrice de musique. Je ne me risquerai pas à dire plus que mon ressenti et laisse le soin aux spécialistes de discourir sur le sujet. Mais pour ma part, je trouve, même s'il faudrait demander leur avis à des initiés, ceci dit, on a tous le droit d'avoir un ressenti propre par rapport à ce qui vient solliciter vos sens ou votre sensibilité intérieure. Et moi, je trouve qu'ici, que la pureté, la simplicité de cette œuvre, dans le sens épuré, subtil même, requiert une excellente technique qui permettra justement qu'on l'oublie au profit de la sensibilité, afin que l'âme et l'esprit de l'œuvre rendent tout son effet pour stimuler votre âme. Et il est vrai que le Requiem de Fauré est l'un de mes préférés et je l'ai souvent écouté. Et pour moi, c'est l'une des musiques conçues pour vous élever votre âme à plus de spiritualité. Et c'est donc une œuvre qui ne souffre pas d'à peu près et exige de l'artiste de la rigueur et la recherche de la perfection pour parvenir à ce but, on va dire, spirituel. Bon, je vais cesser de parler de ce Requiem pour revenir à Nadia Boulanger. J'ajoute pour clore le chapitre que sa carrière fut récompensée par l'insigne de commandeur de la Légion d'honneur en 1977. Alors voilà pour Nadia Boulanger. Nous allons maintenant découvrir l'une de ses compositions. Aussi, j'ai le plaisir de vous proposer une pièce pour orgue et harmonium, le prélude en fa mineur. Alors nous allons revenir en Russie. J'aborderai en même temps le cas de ces artistes femmes peintres plus ou moins contemporaines de Anna Golubkina. Parmi elles, la peintre Marie Vorobiev-Steblekaya, surnommée également Marevna, du nom de la petite princesse de la mer tirée d'un conte russe. Elle le doit, paraît-il, à l'écrivain russe Maxime Gorki, qu'elle aurait rencontré lors d'un voyage et qui l'aurait même encouragée à peindre. Alors, elle est née en 1892, fille naturelle, dit-on, d'un vicomte polonais et d'une actrice juive russe. Elle étudiera à Moscou, à l'école des arts décoratifs, et c'est en voyageant, fréquentant des musées, qu'elle découvrira les différents mouvements picturaux, comme l'impressionnisme ou les primitifs italiens. Et comme bien des artistes de cette époque, son escale à Paris la conduira à poursuivre ses études au sein de différentes écoles, comme à l'Académie Kalarossi, ou l'Académie russe, et à se lier avec d'autres artistes connus et reconnus maintenant, des Russes, hein, bien sûr, comme le sculpteur Ossip Zadkine. Elle y croisera la sculptrice Shana Roloff et tant d'autres encore, comme les peintres de différentes nationalités, tels Soutine, Chagall, Modigliani, Picasso, Fujita, pour ne citer qu'eux, ainsi que les poètes français comme Jean Cocteau ou Guillaume Apollinaire. Alors il faut rappeler que le Paris du début du XXe siècle est une époque extrêmement riche et vivante, avec tous ces artistes créatifs, des Français, aussi bien des étrangers venus d'autres coins du monde, et qui collaborent, échangent de façon fructueuse et viennent par là même enrichir avec leur passion le monde culturel de notre pays. Alors l'art de Marevna prendra une forme personnelle et elle se spécialisera dans le cubisme et le pointillisme. Alors je rappelle que le cubisme en peinture, hein, promu et lancé à l'époque par le français Georges Braque et l'espagnol Pablo Picasso, propose des formes picturales géométriques pour représenter un sujet. Quant au pointillisme, la technique correspond à créer des formes dans un tableau à l'aide de petits points juxtaposés les uns à côté ou sur les autres. Et c'est un mouvement ou une technique qui fait suite à l'impressionnisme. Alors, mais je rappelle encore que j'avais abordé le sujet dans les émissions précédentes en faisant résumé de tous ces courants et techniques avec tenant et aboutissant et dans un nombre assez conséquent de numéros de La Voix des Arts. Mais revenons à Marevna qui exposera avec succès et rencontrera sur son chemin quelques mécènes pour lui mettre le pied à l'étrier et sera en outre reconnue comme la première femme à adopter le cubisme. Parmi ses rencontres, au cours de ses différents voyages à l'étranger, figure également le célèbre peintre mexicain Diego Rivera, de qui elle aura une fille. Il est d'autant plus célèbre, et je pense que vous le savez tous, Diego Rivera fut marié à la peintre Frida Kahlo, qui, elle, fit de son art, comme vous le savez aussi sûrement, témoignage, à moins qu'il ne fût aussi un exutoire à ses souffrances physiques et morales, bien sûr, lesquelles avaient été provoquées d'abord par la poliomyélite qu'elle a contractée étant enfant et ensuite par l'accident de route qui l'a laminée à l'âge de 18 ans. Alors, son histoire est connue, le cinéma s'en est emparé, les rétrospectives ont abondé pour mettre en valeur le parcours de cette femme artiste à la destinée douloureuse, mais aussi épouse d'un peintre célèbre. Et peut-être que j'en parlerai un peu plus loin. Mais avant, revenons à Marie Vorobiev-Steblekaya, dite Marevna, qui, elle, poursuit sa vie artistique avec apparemment plus de légèreté, puisqu'elle continue non seulement à peindre, mais à exposer, à participer également à des projets, comme la réalisation de tissages inspirés par la Russie en faveur du couturier Paul Poiret. Alors la guerre 39-40 la chassera d'abord dans le sud de la France, puis elle s'installera ensuite à Londres avec sa famille et reviendra en France en 1960, à 68 ans, poursuivant la présentation de ses toiles qui seront exposées non seulement en France, mais aussi aux États-Unis, en Suisse, au Japon ou en Israël. Et elle finira sa vie à l'âge respectable de 92 ans. Alors, dans la foulée des artistes des pays de l'Est, parlons de Mela Mutter. De son vrai nom, Maria Melania Mutter, née Klingsland, qui elle est d'origine polonaise, née en 1876 dans une famille juive. Elle s'initiera à l'art dans une école de dessin pour femmes. Elle s'installera ensuite à Paris avec son mari, journaliste Michel Mutter-Milch, pour poursuivre son apprentissage à l'Académie Calarossi, puis à la Grande Chaumière, comme bon nombre d'artistes de cette époque, vous l'avez compris. Alors elle se fera remarquer par sa forte personnalité, par la qualité de son art, une belle peinture dont certains de ses tableaux démontreront par leur facture l'intérêt qu'elle manifestait pour certains peintres comme Cézanne, Gauguin ou Vincent Van Gogh. Alors, son implication personnelle vis-à-vis de la Pologne fera qu'elle se mêlera dans ce sens aux intellectuels, écrivains, artistes de cette communauté, même si ses relations et amis sont issus de toute nationalité. Ce sera surtout dans les milieux artistiques qu'elle nouera des liens, et parmi eux, on peut citer les plus connus, l'écrivain français Romain Rolland, le peintre mexicain Diego Rivera, les musiciens français Maurice Ravel ou Eric Satie, ou encore le poète écrivain autrichien Rainer Maria Rilke. Et il faut dire aussi que son frère Helmut Klingsland deviendra un grand critique d'art. Et comme Marevna, elle se réfugiera pendant la guerre dans le sud de la France, où elle continuera à peindre et s'éteindra elle aussi à l'âge avancé de 91 ans. Alors, vous avez remarqué que je mêle maintenant les peintres aux sculptrices, hein. C'est aussi pour souligner le fait que ces femmes artistes du début du XXe siècle, françaises, étrangères, et qui gravitent pour la plupart dans le Paris de l'époque, sont considérées comme les artistes femmes modernes, celles qui ouvriront en quelque sorte, avec leurs camarades masculins, la voie du futur, de l'expression plastique, du moins l'une des voies. Et c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter, mais ce n'est que temporaire, puisque le sujet « Les femmes artistes au cours du temps » n'est pas épuisé, c'est plutôt moi qui le serai, vu ma concentration constante d'attention pour respecter les noms, les biographies, ne pas les mélanger, recouper les informations, faire des allers-retours sur diverses sources, le tout dans le but de vous proposer une information claire, la plus proche de la réalité objective. Donc, tout ce travail, c'est pour la bonne cause, vous l'avez compris, c'est pour vous éclairer, vous donner envie de connaître, de comprendre ce vaste monde insolite, étrange, perturbant parfois, mais jamais ennuyeux, qui est celui des arts. Merci de votre attention, je rappelle que ce même numéro passera une quinzaine de jours, je rappelle également les nouveaux jours et horaires, c'est donc toujours le lundi à 13h30. Ce qui change, c'est le jeudi à 17h30 et le samedi à 11h30. C'est toujours sur la radio RLP 102.3 ou sur site. J'avais fait une erreur la dernière fois, c'est donc www.radiolibreenpérigord.com, Radio Libre en Périgord, tout accroché et au pluriel. Merci et à bientôt sur La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.